Auvergne Solidarité Internationale, une émission réalisée par le collectif AUSI et Radio Altitude, à découvrir aussi sur Radio Coquelicot.
Bienvenue dans l'émission Le Piment dans le Punchi avec Anis Étoilé, agriculture, nutrition, interculturelle, solidarité. Et ce matin, nous sommes en compagnie d'Elisabeth Delafontaine, naturopathe, nutritionniste holistique. Et nous abordons la force du vert dans nos assiettes. Elisabeth, bonjour.
Oui, bonjour Nathalie.
Bonjour. Alors, ce matin, donc, nous sommes ensemble pour aborder avec vous donc le thème du vert et de la verdure. Alors, pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ce sujet? Qu'est-ce qui vous a amené je crois que vous êtes en train d'écrire un livre là-dessus. Qu'est-ce qui vous a amené à... Qu'est-ce qui a titillé, en fait, votre curiosité et qu'est-ce qui vous a amené à écrire un livre sur ce sujet?
Oh, c'est une exploration qui date déjà... qui remonte déjà à plusieurs années, en fait... Au départ, c'est venu simplement au travers de l'intérêt pour les plantes sauvages, hein, avec un petit défi où je m'étais dit, tiens, est-ce qu'on peut être autonome, au moins en légumes, hein, j'ai pas la prétention de produire toute ma nourriture, mais au moins en légumes, et au printemps. Et donc on est déjà dans la force du printemps, hein, au niveau de la médecine traditionnelle chinoise, on a basculé, puis on le sent bien au niveau du temps qu'il y a quelque chose qui pousse là, qui émerge. Au printemps, quand les ressources d'hiver en fait commencent à s'amenuire et qu'on en est juste à essayer les premiers semis, et ben la ressource évidente, enfin surtout quand on est en milieu rural, hein, comme je le suis, hein, c'est simplement les plantes sauvages qui poussent autour de nous avec une vigueur et une abondance incroyable, et je me suis dit ça c'est fou. Donc je me suis intéressée aux plantes sauvages, j'ai découvert du coup des tas de saveurs, et notamment j'ai appris à dompter l'amertume, hein, l'amertume qui est extrêmement intéressante pour le système digestif, on y reviendra. Et puis surtout j'ai découvert que les sauvages sont bien plus riches en nutriments que ne le sont les plantes cultivées, parce que comme elles poussent dans un milieu où on n'aura pas, je dirais, déroulé le tapis rouge pour leur permettre un épanouissement optimum, elles sont amenées à se défendre et du coup elles développent des défenses qui sont pour nous, ces éléments de défense sont pour nous en fait des nutriments extrêmement intéressants et extrêmement protecteurs. Alors il y a eu ça, et puis après, comme j'ai travaillé à plusieurs reprises sur le printemps, j'ai exploré à chaque fois le potentiel du vert. Alors ça c'est extraordinaire, rien que la couleur verte, le fait d'y penser, quand on dit de quelqu'un qu'il est encore vert, il est encore vigoureux, et donc rien que le mot vert vient du latin viridis, qui signifie justement vigoureux. Donc ça c'est extraordinaire, on dit que le vert va nous donner de la verticalité, donc il va nous donner aussi en tant qu'humain du coup de la dignité, ce qui permet de renaître en fait à chaque printemps. Et le printemps c'est vraiment la saison, la grande saison du vert, hein. En médecine traditionnelle chinoise d'ailleurs c'est la couleur qui est associée au vert et qui va agir sur le foie, c'est-à-dire qui va nous permettre de nous mettre en action, de mettre nos projets, de réaliser en fait nos projets. Donc ça c'est aussi un aspect extrêmement intéressant. Puis ce faisant, j'ai collecté énormément de données, et puis comme je fais une veille assez importante sur des diètes qui sont censées aider les gens pour lesquels la médecine allopathique n'a pas de réponse, hein, sur des pathologies très handicapantes, comme par exemple la sclérose en plaques, j'ai été interpellée justement par la diète qui a été mise au point par une américaine qui s'appelle Terry Walls. Donc elle en est arrivée au stade du fauteuil, hein, elle était atteinte d'une sclérose, et puis là elle s'est dit, je vois bien que la médecine allopathique n'a rien à me proposer si ce n'est des médicaments, je dirais, pour accompagner la dégringolade. Donc là elle a commencé à fouiller et elle a mis au point sa propre diète. Alors des diètes comme ça il y en a beaucoup, mais c'est une diète du type paléocétogène, donc avec un apport en glucides qui est restreint. Et ce qui m'a vraiment interpellée, c'est qu'elle invite les gens à consommer, donc pour un adulte, hein, 9 tasses, donc ce sont des mugs, hein, chez les Américains, 9 tasses de légumes par jour, avec 3 tasses de légumes colorés, 3 tasses de crucifères, donc les crucifères c'est aujourd'hui les brassicacées, hein, donc les choux, les navets, les radis, etc. Et 3 tasses de verdure, uniquement de verdure. Et ça c'est extraordinaire, et je me suis dit, tiens, c'est marrant quand même qu'elle... quel est le potentiel de ces verdures, qu'est-ce qu'elles contiennent pour être aussi fabuleuses. Puis bon, ça a fait écho aussi à toute la démarche du mouvement crudivore, hein, qui avait été initiée notamment par Anne Wigmore avec la création de l'Institut Hippocrate, et notamment ces fameux jus verts, où Anne Wigmore disait qu'avec la consommation de jus verts, elle avait même vu ses cheveux reprendre de la pigmentation. Donc tout ça, c'était interpellant. Alors bien sûr, quand on pense au vert, on pense à la chlorophylle, hein, la chlorophylle qui a été passablement étudiée, qui continue d'être étudiée, mais c'est pas le seul aspect non plus des feuillages.
Et alors, je crois que vous m'avez dit également, hors antenne, avant de l'émission, qu'il y avait une dimension internationale aussi, c'est-à-dire que ça se retrouve dans différents pays, en fait, cet intérêt pour le vert.
Oui, oui, alors moi, justement, en fouillant, forcément en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'en fait, que depuis une dizaine d'années, on s'intéresse au feuillage dans les alimentations, tant en Afrique, en Inde, à Madagascar, pour justement rééquilibrer les apports nutritionnels des populations, parce qu'on s'est rendu compte que si globalement l'apport calorique il était satisfait, l'apport en micronutriments ne l'était pas. C'est-à-dire qu'on était face à des phénomènes de dénutrition, là où on pensait avoir résolu le problème de la faim. Donc certes, la faim était peut-être résolue, encore elle n'est pas complètement en Afrique, mais du coup on s'est rendu compte que les gens avaient une alimentation beaucoup plus saine avant que l'Occident n'y mette son grain de sel, quelque part, hein. L'enfer est souvent pavé de bonnes intentions, comme on dit, et en fait on encourage maintenant ces populations à retourner vers des activités de cueillette, qui étaient des activités d'ailleurs souvent féminines, et c'est une manière de revaloriser à la fois des connaissances et des savoir-faire. Alors en Afrique, qu'on va trouver, dans ce qu'on connaît nous, on va avoir le baobab ou le moringa, qu'on trouve d'ailleurs aujourd'hui chez nous comme complément alimentaire sous forme de poudre séchée en général. Et puis on va aussi trouver des feuilles de haricots, les fameux niébés, qui sont ces petits haricots qui sont plus de la famille des doliques, hein. C'est pas les haricots qui viennent des États-Unis, c'est vraiment les haricots que nous on connaissait notamment au Moyen-Âge, donc dont on mange les feuillages. Il va y avoir aussi les feuillages de patates douces, il va aussi y avoir les feuillages de l'aubergine africaine, hein, qui n'est pas la même que celle qu'on cultive chez nous. Donc tout un tas, puis bien d'autres végétaux que moi je ne connais même pas, hein. De toute façon je ne connais pas l'Afrique, donc je n'aurais pas la prétention de vous les énumérer. Mais en fait on s'est rendu compte qu'au travers de ces apports traditionnels, en fait, on avait une incroyable source de nutriments qui permettait, alors en Afrique, ce qu'on fait, c'est beaucoup de sauces qui viennent accompagner les céréales ou les boulettes de céréales, et donc ces sauces sont extrêmement riches. Donc c'était revaloriser ces savoirs. On a le même phénomène en Inde, alors là on appelle les feuillages kiré ou kirai, bon je suis pas sûre de la prononciation. Il y a une étude qui a été faite donc auprès de la population tamoule au sud de l'Inde, où là encore on s'est rendu compte que le fait d'avoir mis les femmes au travail, sous-entendu le travail salarié, en fait on s'était coupé de tout un savoir-faire et de toute une économie locale qui était une économie de subsistance, mais qui était vraiment, enfin, la femme était au cœur de cette économie. Et donc là encore, on réhabilite ses savoir-faire, ses connaissances, parce que les femmes ont une incroyable connaissance en matière de végétaux, hein. C'est traditionnel, on le voit au travers de toute l'histoire de la cueillette. Et on a le même phénomène à Madagascar, où là, ce sont les breads. Donc là, maintenant, on a les breads mafane, hein, qui commencent à être connus. On peut même les cultiver chez nous, hein. J'ai vu des graines de breads proposées sur le marché. Et puis, j'ai découvert aussi en Papouasie, alors eux, je crois qu'ils appellent ça les kourous, mais pour eux, il n'y a pas de repas sans verdure qui viennent. C'est un complément, hein. Il ne s'agit pas de devenir herbivore, hein. Nous ne sommes pas des herbivores, on n'a pas un système digestif taillé pour digérer de grandes quantités de cellulose, mais par contre, c'est un pivot qui vient rééquilibrer les apports.
D'accord, donc c'est vraiment en fait un potentiel extraordinaire. Donc qu'est-ce qu'on trouve finalement dans les feuillages en fait, au niveau de leur potentiel santé?
On trouve alors énormément de choses. On va pas dire que ce sont des champions dans un nutriment en particulier. Peut-être la lutéine, hein, dont on sait qu'elle agit, c'est un antioxydant, ça fait partie des pigments et qu'elle agit au niveau de la vue. Mais globalement, on a un panel qui est extrêmement intéressant. Bon, j'ai évoqué tout à l'heure brièvement la chlorophylle, mais derrière la chlorophylle, il y a du magnésium. Rien que ça, déjà, c'est extrêmement intéressant. Et dans la chlorophylle, le magnésium, il est lié à de l'eau. non. Donc ça, c'est un aspect aussi élémentaire, mais bien souvent, on a tendance à mépriser ce qui est abondant, parce qu'en général, les végétaux, pour nous, ça renvoie à la nourriture des animaux. D'ailleurs, pour nous, c'est les disettes où on en était réduit à manger des herbes, quoi. Et moi, j'ai retrouvé chez Adam Maurizio, qui a écrit l'histoire de l'alimentation végétale, des propos sur la cueillette, mais qui sont, extrêmement péjoratifs. En être réduit à manger de l'herbe, c'est vraiment retrouver la condition animale. Donc on oppose le sauvage, en fait, au civilisé qui, lui, ne va plus manger ses herbes. Et donc, donc bien souvent, on dit des végétaux, c'est de la flotte.
Oui, on dit 80% d'eau.
Ouais. Ouais, voire même jusqu'à 95%, hein, donc c'est énorme. Mais cette eau, elle a l'avantage d'être filtrée par le végétal, et c'est une eau également qui est insolée, c'est-à-dire qui reçoit les rayons lumineux, puisque le principe même du feuillage, c'est de réaliser la photosynthèse. Et la photosynthèse, c'est un processus qui n'a pas encore délivré tous ses secrets. Hein. Je veux dire, on étudie toujours la photosynthèse. C'est quelque chose qui laisse assez béat, puisque grâce à l'eau, donc les nutriments qui sont pris par les racines et sous l'effet de la chaleur, on va générer de la matière. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux. Et on va générer notamment des hydrates de carbone aussi sous forme de glucose ou d'amidon dans les plantes. Mais c'est l'eau qui va servir vraiment de vecteur de transformation. Alors c'est tout, on va y revenir parce que l'eau, elle est... Maintenant, l'eau commence à être très étudiée, mais elle aussi, elle a encore des aspects qui sont encore déroutants. Alors qu'est-ce qu'on trouve d'autre ? J'ai parlé du magnésium. Magnésium essentiel, parce que le magnésium, en fait, il intervient, on estime, dans plus de 300 réactions à l'intérieur de l'organisme. On sait aujourd'hui que les diètes occidentales sont amplement carencées en magnésium, et le magnésium, c'est vraiment le minéral régulateur de tas de fonctions. Donc on retrouve toujours cette idée d'équilibre. On va également trouver du potassium, mais ça, c'est pas le propre du feuillage. Mais le rapport entre potassium et magnésium fait qu'on va vraiment lutter contre l'inflammation et qu'on va relancer les échanges intra-extracellulaires. Donc relancer les échanges, ça veut dire d'un seul coup rééquilibrer, parce qu'il n'y a pas de blocage. On sait que les maladies naissent essentiellement de l'inflammation, et l'inflammation, en fait, ce sont aussi des blocages dans les échanges. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Bon, au niveau des oligos, après, on va retrouver, enfin, des minéraux et des oligos, on trouve tout un panel de choses. Hein. Moi, je vous ai cité les deux principaux, donc là, avec le magnésium et le potassium. Bon, on va également trouver du calcium. Bon, le calcium, je ne fais pas de dessin, il est aussi essentiel. On va retrouver également un petit peu de fer, mais qui n'est pas forcément très assimilable. Hein. On dit toujours que le fer issu des produits d'origine animale est beaucoup plus intéressant, mais mine de rien, il a aussi son rôle. Du manganèse, du silicium, donc la silice, on sait aussi qu'elle intervient dans dans la régénération de nombreux tissus, et notamment tout ce qui est cartilage et autres. Hein. Tout ce qui est cicatrisation, tout ce qui va toucher, en fait, les collagènes, elle est extrêmement intéressante. On a du chrome, du cobalt, ok. Et puis après, ce qui nous intéresse, c'est au niveau des vitamines. Et là, on va trouver donc énormément de vitamines du groupe B. Alors c'est pareil, les feuillages ne sont pas forcément des champions des vitamines du groupe B, mais on va notamment trouver des folates. Folates, comme son nom l'indique, hein, les folates ont été identifiés pour la première fois dans les feuilles. Et donc les folates, leur autre nom, c'est tout simplement la vitamine B9. Et là, les folates sont extrêmement intéressants pour la régénération des tissus, parce qu'ils vont accompagner la duplication cellulaire et faire en sorte que la duplication cellulaire se passe bien. C'est-à-dire, quand on duplique des cellules, autant faire que ce soit des copies conformes et pas des copies ratées, quelque part. Et donc, il intervient également dans le système immunitaire et dans le renouvellement de tous les tissus. Ce qu'on va trouver également en abondance, c'est de la vitamine C. Donc, vitamine C, pareil, vitamine antioxydante, hein, dont on sait que nous, on n'est plus capable de la synthétiser. Alors, pour la petite histoire, on dit que l'homme a perdu la capacité de synthétiser la vitamine C dès lors qu'il s'est mis à manger plus de fruits et aussi de légumes, puisque les feuillages en sont riches. Bon, moi, je pense que c'est beaucoup plus une modification du microbiote intestinal qui a amené cette curiosité, on va dire, puisque par exemple les chats, eux, sont capables de la synthétiser. Alors vous allez me dire, mais les chats mangent pas de fruits et de légumes, c'est vrai, mais toujours est-il qu'il y a des animaux qui sont capables de la synthétiser et pas nous. Donc ça, c'est assez étrange. Et le chou, par exemple, on sait très bien qu'il est extrêmement riche en vitamine C, hein. C'est pour ça qu'on en emportait à bord des bateaux pour pour lutter contre le scorbut, qui était vraiment le grand mal des marins, dès lors qu'on embarquait pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Une autre vitamine extrêmement intéressante, c'est la vitamine K, alors qu'on réduit souvent à vitamine anticoagulation. En fait, la vitamine K, elle régule la coagulation sanguine, c'est-à-dire autant dans un sens que dans l'autre, et elle va permettre justement la bonne circulation. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, parce que la circulation, on est encore en relation avec cette notion d'échange de intra-extra et donc d'apport de nutriments, d'évacuation des déchets, etc. Donc la vitamine K, elle est vraiment dynamisante, sachant que si on a un microbiote équilibré, on va, à partir de la K, donc qui est de la K1 apportée par les végétaux, synthétiser de la K2 qui, elle, en lien avec la vitamine D, va être extrêmement régénérante pour l'organisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de compléments qui associent donc la D sous forme D3 avec la K2. Et qu'on trouve la K2, on la trouve également dans tous les produits fermentés. Mais normalement, elle est synthétisée par un microbiote en santé. Et puis, autre vitamine qu'on va trouver, c'est de la vitamine E, également antioxydante. Et puis de la vitamine A, mais surtout, sous forme de bêta-carotène. Donc là, on voit bien qu'on a aussi un cocktail d'antioxydants. Donc les antioxydants, comme je dis, pour faire simple, ce sont nos anti-rouilles. Donc qui vont prévenir, ça freiner le vieillissement de l'organisme et toujours accompagner cette régénération donc des tissus.
Alors mangeons de la salade, mangeons du chou, mangeons du pissenlit, allons à la cueillette dès que la nature va repartir. C'est vrai que là on est encore pas tout à fait dans la saison, mais ça va démarrer
presque,
incessamment
hein.
Sous peu. Ouais. Alors on va faire quand même une petite pause avant de vous retrouver juste après. Donc on fait une petite pause avec Mathieu Chédid, Toumami, et on part en Afrique au Mali. Radio Altitude, ce matin, du piment dans le Pounti avec Anis Étoilé dans le cadre de l'émission Auvergne Solidarité Internationale. Chaque mois, en fait, rendez-vous donc avec Anis Étoilé, agriculture, nutrition, interculturelle, solidarité. Nous parlons nutrition et ce matin, nous sommes avec Elisabeth Delafontaine, nutritionniste holistique, naturopathe, et qui va bientôt sortir un livre donc sur la force du verre dans nos assiettes. Et Vous allez bientôt également intervenir dans le cadre de l'association Anis Étoilée. On donne déjà la date, donc ce sera le samedi 13 mai à la Maison des Paysans à Lande. Les auditeurs qui nous écoutent peuvent déjà nous contacter s'ils le souhaitent sur contact@anisetoile.org. Alors on revient sur le potentiel santé du vert, en fait, du vert. Donc on parle des salades, on parle du chou, de quoi d'autre parlons-nous en
fait ? Des épinards, du cresson, des fans de radis, de carottes, de navets qui sont extrêmement intéressantes. D'ailleurs, à ce propos, il faut savoir aussi que les fans sont plus riches en nutriments que les racines. Et bien souvent on les néglige, hein. C'est la partie qu'aujourd'hui encore beaucoup d'entre nous jettent malheureusement, alors qu'on peut les consommer aussi bien crues que cuites, c'est extrêmement intéressant. On va avoir aussi dans les graines germées, dès lors qu'on a les petites pousses qui apparaissent, hein. Et c'est ce qui m'a aussi amené à m'intéresser à des aspects plus subtils d'ordre énergétique, quoi, par rapport aux plantes vertes. Parce que quand on regarde le panel de nutriments, on peut se dire ouais, ok, c'est intéressant parce qu'il y a un beau panel, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Donc du coup c'est vraiment une question. Alors quand je dis les feuillages, les verdures, vous avez aussi les bêtes, hein, la partie verte des bêtes qui est extrêmement foncée, parce que plus les feuillages vont être foncés aussi, et plus ils vont être denses en nutriments.
On parle du poireau aussi, par exemple.
Le poireau, bien sûr, le vert du poireau qui est extrêmement intéressant aussi, hein. Donc on est, mais même les tiges d'oignons, les tiges d'ail, enfin, donc l'ail des ours, bien sûr, là, donc ça va bientôt être la saison. Je veux dire, c'est extrêmement dynamisant. Et donc en travaillant plus sur ces dimensions subtiles, moi j'aime bien m'intéresser en général à ce qu'on méprise, et donc dans ce qu'on méprise et qui est abondant, il y a l'eau, comme les verdures autour de nous, hein, si on se situe, moi j'ai raisonné sous nos latitudes, mais comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, dans d'autres pays, en Afrique et autres, on a aussi beaucoup de vers autour de soi, et on se rend compte, ce qui m'avait aussi frappé, c'est qu'on se rend compte que c'est l'abondance de cette verdure, c'est abondant et on le néglige, alors qu'en fait il y a juste à tendre le bras pour cueillir, c'est quand même assez extraordinaire. C'est ça qui m'avait fasciné.
On a l'ortie aussi, par exemple.
Dans les sauvages, on a l'ortie, on a le pissenlit qui est extrêmement intéressant, on a le plantain qui est vraiment la plante de la douceur. Alors ça, pour les systèmes digestifs, en peine, le plantain, il est extrêmement cicatrisant puisqu'il est plein de mucilage, donc il adoucit, donc il est épatant pour ça. Tous les problèmes de muqueuse, le plantain, c'est vraiment sa force. Quand on voit par exemple l'ortie, quand je parlais tout à l'heure de cette verticalité, l'ortie est extrêmement riche en magnésium et on peut se faire des cures de magnésium simplement au travers d'infusions d'ortie. Je veux dire, il n'y a rien de plus simple, hein. Et donc parce que l'infusion, c'est un des moyens en fait les plus élémentaires et les plus performants pour extraire des nutriments des plantes.
D'accord. Et alors donc, ce potentiel autour de l'eau, est-ce que vous pouvez préciser, en fait, parce que l'eau, apparemment, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
Alors, l'eau, elle a des qualités extraordinaires, et quand on sait qu'elle représente donc chez l'homme les deux tiers de son poids, et selon Marc-Henri, donc, qui est un grand spécialiste de l'eau en France, c'est 99% de sa quantité de molécules. Donc autant dire, enfin comme le disait également René Quinton, l'homme est un aquarium ambulant. Donc l'eau est extrêmement importante et on a tendance aussi à la négliger, alors qu'on sait très bien que la déshydratation, je veux dire, elle est aussi une source de pathologies diverses et variées qui vont du simple maux de tête à l'arthrose. Hein. Les ulcères aussi gastriques peuvent être soignés pour beaucoup simplement avec de l'eau. Donc j'ai envie de dire, il ne faut pas attendre d'avoir soif, déjà il faut boire, mais les végétaux vont être une source appréciable d'eau, sachant que, comme je le disais tout à l'heure, ils ont été insolés, c'est-à-dire soumis à l'action du soleil. Alors là, on a des recherches qui sont quand même des recherches assez récentes. Donc j'ai cité Marc-Henri. Marc-Henri parle d'eau morphogénétique ou morphogénique. Je suis en train d'interpréter. Et puis Gérald de Polac, qui est un Américain qui a beaucoup travaillé sur l'eau également, parle du quatrième état de l'eau, qui est une eau structurée. Et c'est ce que l'on retrouve dans les végétaux. En fait, cette eau structurée, c'est quoi ? Pourquoi quatrième état de l'eau ? On connaît l'eau liquide, on connaît l'eau sous forme de vapeur, on connaît l'eau sous forme de glace. Et là, c'est une eau qui, dans sa structure, en fait, va s'assembler différemment. C'est-à-dire qu'on n'est plus avec, en présence d'H2O, mais H3O2, donc l'assemblage moléculaire est légèrement différent. On a une eau qui est beaucoup plus visqueuse, donc plus épaisse, on va dire. Et puis, elle forme des espèces d'alvéoles, un petit peu, et des couches qui sont superposées. Et ça, cette eau-là, elle arrive quand elle est en contact avec une surface ou quelque chose qui soit hydrophile. Or, le magnésium est hydrophile, est un minéral hydrophile. Donc, du coup, on va avoir cette eau structurée à l'intérieur des végétaux. Et normalement, cette eau structurée, c'est également celle que l'on retrouve à l'intérieur de l'organisme humain, aussi bien dans les cellules qu'à l'extérieur des cellules. Alors, qu'est-ce que cette eau a de particulier ? Ben, cette eau, elle a la capacité à emmagasiner énormément d'énergie et d'informations. Et lorsqu'on s'expose au soleil, et notamment aux infrarouges, on emmagasine encore plus d'informations. Alors ça, ces travaux-là, ils font écho aussi à d'autres travaux alors qui sont menés au Mexique, cette fois-ci par quelqu'un qui est ophtalmo à la base, qui s'est intéressé donc à la dégénérescence maculaire, et qui s'est aperçu que l'œil est très riche en mélanine. Alors la mélanine, nous, on la connaît au travers de son marquage, on va dire, puisque la mélanine, c'est ce qui va générer le bronzage. Hein. Donc la mélanine est un pigment. Et donc Arturo Solis, c'est son nom. Hein. Bien souvent, les gens sont bien nommés. Il s'appelle Solis comme le soleil. C'est incroyable. Donc il a découvert que la mélanine, en fait, pouvait nous permettre de réaliser une sorte de photosynthèse. C'est-à-dire que dès lors qu'on s'expose au soleil, nous aussi, on est capable d'emmagasiner donc de l'énergie solaire et d'avoir un processus qui se met en place qui est similaire à celui de la photosynthèse. C'est-à-dire qu'on est capable de générer de l'énergie simplement par exposition au soleil. Et lui, donc, il est convaincu de l'action de la mélanine. Donc, il a déposé je ne sais combien de brevets pour essayer de mettre au point. Alors déjà, il a aidé des gens justement à soigner des problèmes tons oculaires et d'autres problèmes après de peau et autres. Mais lui, il pense que la mélanine est au règne animal, ce que la chlorophylle est au règne végétal. Donc là, il y a une fenêtre qui s'ouvre sur des travaux extrêmement prometteurs sur le rôle de l'eau et l'eau insolée. Et donc, on sait très bien qu'aujourd'hui aussi, dans le monde occidental, on manque d'exposition au soleil. Hein. Ça fait partie des grosses carences qui vont générer la carence en vitamine D notamment, mais pas que. Et donc, du coup, on se rend compte que le bain de soleil est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, dans les exercices oculaires qui vont aussi participer à régénérer l'œil, il y a ce qu'on appelle les bains de soleil. Alors, il ne s'agit pas d'aller regarder le soleil les yeux grands ouverts. Hein. C'est pas du tout ça. On ferme les yeux, on regarde jamais le soleil en direct comme ça. Mais le fait d'exposer les yeux fermés au soleil, c'est quelque chose d'assez agréable. Hein. Quand on est comme ça, assis face au soleil, on sent qu'on se détend. Mais va stimuler justement l'œil et va régénérer l'œil. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, sachant que l'œil est à 95% composé d'eau. C'est parmi tous les organes, parce que quand on parlait de la présence de l'eau dans l'organisme, mais l'œil, c'est un des plus chargés. Et parmi aussi les organes les plus chargés, on a les poumons et on a également le cœur et après les muscles, etc. Donc ça, c'est intéressant de prendre conscience de ça. Quelle est la part de l'eau dans l'organisme pour comprendre ce que simplement cette eau peut faire et ce qu'elle va être en capacité de faire dès lors qu'on va s'exposer au soleil. Et donc on s'est rendu compte, alors il y a des études également qui ont été menées, que plus les gens mangent de légumes chlorophylliens, donc riches en chlorophylle, donc on retrouve nos verdures, et plus ce phénomène de réénergisation se produit dès lors qu'on s'expose au soleil. Donc il y a des recherches donc qui travaillent sur un homme photosynthétique, donc capable de photosynthèse. Donc là, il y a un monde de recherche incroyable. Et puis donc la recherche la plus extraordinaire sur laquelle je suis tombée, mais assez récemment, du coup, je n'ai pas sous les yeux le nom des protagonistes de cette étude. Ce sont toujours des chercheurs américains qui, de manière presque intuitive, hein, voilà, ils étaient en train de manger, et il y avait une salade d'épinards, et en observant la feuille d'épinard, ils se sont dit, mais tiens, cet épinard, ça nous fait penser à, ça nous fait penser à du tissu cardiaque. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, les sources en français sont assez maigrichonnes. Hein. C'est une recherche qui a été divulguée juste au moment du début du Covid, donc qui est passée un petit peu sous silence. Mais ils ont en fait enlevé les cellules de la feuille, ils ont gardé toutes les nervures, tout le système d'irrigation. Ils ont réussi par un procédé, alors je ne sais technique, j'ignore lequel, à greffer des tissus cardiaques sur cette feuille d'épinard, et ils ont réussi à faire croître des tissus humains, donc animaux, sur un végétal. Et donc à partir de là, ils pensent pouvoir mettre au point des sortes de pansements à base de végétaux pour régénérer des tissus humains. Mais ça, c'est quelque chose quand même qui est assez fabuleux. Et là, on voit ce potentiel de régénération, je veux dire, sous une autre forme. Là, on est loin de notre assiette, mais on peut se dire que dans notre assiette, parce que dans notre assiette, c'est ce qu'on peut faire au quotidien, on a tout intérêt à remettre des verdures. Et puis l'autre aspect, dans ces aspects subtils, parce que moi, je me suis dit, si le végétal n'a rien d'exceptionnel en soi, ça veut dire qu'il faut chercher ailleurs, c'est-à-dire dans des dimensions plus subtiles. Et là, je me suis intéressée à la botanique telle que Goethe l'a envisagée hein, dans son essai sur la métamorphose des plantes. Alors déjà, on comprend dans cette idée de métamorphose qu'il y a une idée de changement, de mutation, et notamment le magnésium participe à tous les changements dans l'organisme. Il est extrêmement important cruciaux de changements hormonaux chez l'homme, hein, que ce soit la puberté ou après la ménopause chez la femme, etc. Parce qu'il va nous permettre justement de bien vivre ces changements. Donc il agit vraiment dans la métamorphose et dans les plantes, la chlorophylle dont on dit qu'elle est très similaire donc à l'hémoglobine, parce que l'atome central en fait est du magnésium, quand chez nous on va retrouver du fer. Donc c'est pour ça qu'on dit que la sève, la chlorophylle est à la plante, ce que le sang est à l'homme. Donc c'est vraiment un potentiel, je veux dire, nourricier et régénérant. Et donc, pour revenir à cette métamorphose des plantes, Goethe disait que la feuille est à l'origine de tout. C'est-à-dire qu'elle va permettre la croissance de la plante aussi bien en hauteur que vers le bas, enfin vers le haut et vers le bas. Donc elle est l'élément central. On pourrait dire que quelque part, elle est la partie la plus active, la plus dynamique de la plante, et c'est elle qui va prendre la sève brute pour en faire justement une sève élaborée et qui va permettre cette croissance. Donc on sent bien là le potentiel, je veux dire, de pôle d'équilibre. Et ensuite, cet aspect donc de la botanique élaborée par Goethe a été repris donc en médecine anthroposophique, où on nous parle de la plante tripartite, donc racine, feuille, fleur, et de l'homme tripartite avec la tête, le système rythmique donc qui comprend les poumons et le cœur, et le système moteur. Et donc, les feuilles s'adressent au système rythmique. Et on estime que le système rythmique, c'est le pôle d'équilibre, parce que justement, il relance les échanges entre les extrémités. Et donc, on retrouve encore cette idée d'équilibrer l'organisme humain par les plantes. Et dès qu'on parle d'équilibre, parce que la maladie naît toujours d'un déséquilibre, hein, quel qu'il soit, parce qu'il y a un aspect qui va se développer au détriment des autres. Donc, si on comprend que les feuillages ont cette force de rééquilibrage global, on comprend effectivement leur potentiel pour... dans toutes les pathologies. Alors avant d'être malade, j'ai envie de dire, prenons simplement du plaisir à manger des verdures. Et ça, c'est aussi l'intérêt du travail que je suis en train de mener, c'est de montrer qu'on peut prendre beaucoup de plaisir, que les verdures, ça peut être gourmand, parce que bien souvent, et c'est souvent chez les enfants, le verre, c'est berque. Alors non seulement ça nourrit pas son homme, mais en plus, on veut bien un petit peu de verre juste pour faire joli dans l'assiette, mais pas trop surtout, parce que justement, on n'est pas des animaux. Donc c'est réhabiliter la verdure, aussi sous l'aspect gourmand. Et moi, c'est ce qui m'a permis également redécouvrir des tas de recettes que j'appelle des recettes de peu. Hein. À l'époque, on n'avait pas forcément une épicerie au coin de la rue, et qu'il fallait acquérir sa nourriture ou la faire pousser, et où les populations avaient trouvé des tas d'astuces justement pour accommoder les feuillages. Et là, on a pareil un potentiel d'ouverture et de redécouverte qui est assez incroyable.
Alors on va inviter tous nos auditeurs à venir découvrir ce potentiel gourmand en suivant l'atelier d'Anis Étoilé le 13 mai à la Maison des Paysans. Donc avec vous Elisabeth de La Fontaine, donc il y aura une première partie théorique et puis ensuite une partie pratique pour justement mettre à l'honneur donc ce vert, ces verdures et le légume dans toutes ces dimensions au niveau sauvage et cultivé, donc au niveau du vert. On rappelle donc poireaux, blettes, salades, orties,
donc,
plantains,
toutes les salades,
salades sauvages, salades cultivées. Et là, on rentre vraiment en fait au printemps dans la folie de la feuille, hein, si on peut dire. Hein.
Ah oui, c'est ça. Pour moi, c'est une mise à feu. La mise à feuille, c'est une espèce de mise à feu. Hein, même si parfois les printemps sont plus lents, hein, tout dépend des températures et autres. Mais là, il y a quelque chose d'incroyable. Et là, on le sent aussi, hein, simplement au niveau intuitif, le vert. Inconsciemment, c'est lié à la vie. Si on était dans le désert et que d'un seul coup on voit une tache verte, on va se dire oh, c'est une oasis, ok, mais l'oasis elle est verte, pourquoi? Parce que c'est la présence de l'eau, et quelque part on sait très bien que l'eau conditionne la vie. Et là, en Auvergne, je veux dire, on a une chance incroyable, c'est quand même d'être dans un univers qui reste vert malgré tout, même si on subit aussi les sécheresses, elles sont jamais aussi autant marquées que dans d'autres régions françaises. Donc là, on a un poumon, le simplement fait de voir du vert, on sait que c'est apaisant aussi pour le psychisme. Le vert, c'est la couleur de la paix. Mmh. Et c'est la couleur du chakra du cœur. Donc pour les Indiens, je veux dire, ça parle également, quoi.
Et ben avec ces superbes découvertes que nous avons réalisées ce matin, donc j'encourage tout le monde à aller se faire une petite infusion d'ortie ou de quoi? Qu'est-ce qu'on peut cueillir?
Le plantain. C'est aussi très bien en infusion. Parce que là, avec plantain, ortie, pissenlit, on a la trilogie qu'on peut trouver quasiment 10 mois sur 12. Donc là, c'est le trio de tête.
Alors, plantain, ortie, pissenlit, on invite tous nos auditeurs donc à se faire une petite infusion dès la fin de notre émission à la place de l'apéro. Et on se retrouve le mois prochain donc sur Radio Altitude avec l'émission du piment dans le Punti. Merci beaucoup Elisabeth, à très très bientôt.
Merci
donc on
à
rappelle
vous.
Le 13 mai à Anis Étoilé. Pour toutes les personnes intéressées, contact@anisetoilé.org. À très bientôt. Au revoir.
Retrouvez l'émission Auvergne Solidarité Internationale toutes les semaines sur Radio Altitude avec le collectif AUSI. À découvrir aussi sur Radio Coquelicot.
Il faut s'élever pour changer tout ça. On doit s'élever.